L'atelier des médias, Ziad Malouf.
C'est d'abord une histoire de rangement. Nous sommes en 2010 au lycée La Fontaine à Paris. Christine Lerche était alors professeure de mathématiques.
Il nous fallait un placard pour l'équipe de mathématiques, pour mettre tous nos livres, etc. Donc on m'avait dit qu'il y avait un placard qui était situé dans l'ancien bureau du proviseur adjoint, qu'il fallait donc libérer pour pouvoir l'utiliser. Donc je suis montée dans ce bureau, j'ai commencé à faire des rangements, il y avait des affaires de mathématiques, et puis il y avait une enveloppe Kraft, vous voyez, des enveloppes Kraft classiques marron, dans lesquelles vraiment j'ai été très surprise de découvrir des lettres, des documents. Et c'est vraiment, vous voyez, encore là, ça fait à peu près 6-7 ans après, l'émotion elle est toujours là de la découverte de ces documents qui vraiment étaient très surprenants dans un placard avec des affaires de mathématiques. C'était donc des lettres d'une jeune élève à son professeur. Alors il y avait des lettres, il y avait une rédaction et il y avait des petits mots dont un qui m'a absolument saisie, qui commençait par « Nous sommes tous arrêtés » et globalement je transmets ces documents pour pouvoir les retrouver si je reviens un jour.
Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à Mademoiselle Arnold et je vous embrasse. Louise.
C'est vraiment, ça m'a mis une émotion que vous pouvez imaginer. C'était comme si c'était hier, quoi. On entendait encore les bruits de bottes, quasiment. Donc, il y avait aussi un petit mot, donc suite à cette arrestation, qui témoignait des efforts faits par ce professeur qui s'appelait Mademoiselle Malingret, par une assistante sociale pour essayer de retrouver où ils étaient, pour pouvoir les aider. Et malheureusement, on sent bien dans ces petits mots qu'ils sont tous arrêtés et que tout va aller très vite. Et donc j'ai bien compris que cet élève, Louise Pikowski, n'était pas revenu, ni toute sa famille avait été exterminée dans les camps de concentration, donc à Auschwitz.
Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Quand Louise Pikowski, 16 ans, écrit ces lignes à sa professeure de lettres, Anne-Marie Malingret, en janvier 1944, son écriture trahit une agitation, elle qui noircissait avec élégance et soin des pages et des pages, comme le montrent les autres lettres retrouvées dans cette enveloppe Kraft. Lire ces mots, imaginez la ville, les rues que l'on arpente chaque jour, théâtre de scènes si sombres, ne peut laisser indifférent. Je n'ai aucune difficulté à imaginer l'émotion de Christine Lerche quand elle découvre ce trésor et décide de lui redonner vie.
Alors, j'étais évidemment très émue. Très émue et j'ai voulu que ces lettres, tous ces documents, ne soient pas mis au fond d'un carton. Et comme beaucoup des papiers qui étaient dans cette armoire, et soit mis dans un sous-sol comme une archive, parce que c'était évidemment une archive, mais moi je voulais vraiment faire revivre, et je n'ai pas bien compris comment, en lisant les lettres, on est évidemment extrêmement ému, comment il se faisait que la mémoire de cet élève n'ait pas été honorée au lycée. Au collège-lycée La Fontaine. Donc moi, je voulais faire en sorte, à partir de cette découverte, qu'il y ait donc une recherche sur les autres élèves qui avaient été déportés, qui étaient décédés en déportation, pour que l'on puisse poser une plaque en leur mémoire, de faire quelque chose à partir de ces lettres.
Boulogne, le 7 août.
Hâtons-nous le bonheur qui passe, peut fort bien ne point revenir.
Chère mademoiselle, j'ai reçu votre lettre et votre paquet. Et je ne vous remercie ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais je puis vous dire que les haricots étaient délicieux. Et que la lettre, oh, pour elle, je ne dis rien, car je dépasserai les limites que vous m'avez permises. Je suis bien heureuse, mademoiselle. Nous avons des nouvelles de papa. Il n'a pas quitté Drancy. Vous voyez comme leurs décisions ont un lien? Enfin, tant mieux. Nous pouvons envoyer un colis de vêtements. J'ai eu bien du travail pour aider à le préparer. Mais aussi avec quelle joie l'ai-je fait. Oh, mademoiselle, si vous vouliez me reparler de la joie, je suis sûre que nous ne pouvons apprécier le bonheur qu'après avoir souffert. Mais est-ce que la souffrance a des arrêts? Je finis par en douter. Je vous embrasse affectueusement, Louise.
Quand Christine Lerche découvre les lettres de Louise, dont vous allez entendre aujourd'hui de larges extraits lus par Ludivine Amado, elle décide d'en savoir plus sur l'histoire de cette jeune fille et de toutes les élèves de La Fontaine qui ont connu la déportation. De cette volonté est née une aventure historique, journalistique et éducative, une enquête qui a impliqué plusieurs autres personnages que vous allez rencontrer aujourd'hui. Constance Léon et Marie-Stéphanie Cerveau sont choisis de retracer cette histoire et de vous la raconter avec ma complicité et celle, bien sûr, de Simon de Creuse qui signe la réalisation.
Cette correspondance entre Louise Pikowski et Mademoiselle Malingré, elle était connue au lycée Jean de La Fontaine, puisqu'il y a eu notamment une publication dans le journal de l'école. Pourquoi rien n'a été fait auparavant ?
C'est difficile de savoir pourquoi rien n'a été fait, puisque je sais que ça devait être en 1988, il y a eu le cinquantenaire du lycée, et qu'à cette occasion, effectivement, il y a eu les documents qui ont été réunis, et que là, il y avait quelque chose de fait pour rappeler l'histoire de cette jeune fille. Mais apparemment, après, les documents ont été rangés. Donc c'était Madame Castagnou qui avait fait, je pense, toutes ces recherches. Après, ces documents ont été rangés, puis oubliés. C'est-à-dire que ça n'a pas amorcé quelque chose qui allait plus loin que le fait, dans le cadre d'un cinquantenaire, faire voir ses lettres, cette histoire. Et puis, il y avait aussi une Bible, j'ai oublié de le dire, avec les documents, ce qui était très surprenant.
On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi. C'est ça ? Oui, c'est quelque chose comme ça.
À partir du moment où j'ai eu les lettres, j'ai essayé de remuer un petit peu, de faire en sorte que, tout de suite, je vous ai dit, on recherche les élèves, qu'on puisse mettre en place une plaque, parce que je voulais vraiment, moi, disons que je savais que j'avais plus beaucoup d'années d'enseignement à faire, et ça me tenait à cœur que quelque chose soit fait pour la mémoire de Louise Pikowski et des autres élèves. Donc on a commencé avec, j'ai commencé à chercher donc des personnes qui pouvaient faire cette recherche avec moi, parce que bon, c'est vrai que professeur de mathématiques, je ne suis pas habituée aux manipulations de documents, de faire des recherches, donc je suis allée voir au CDI. C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit, et là ça a été une fin de non-recevoir, on m'a dit, ce qui m'a un peu surpris. Donc j'ai été voir d'autres professeurs, j'ai été en particulier Patrick Chekroun, qui est toujours professeur de musique et qui était très sensible à toute cette période. Et nous avons fait aussi appel à une association et on a commencé à chercher. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun listing des élèves, on ne trouvait pas la liste des élèves de cette époque. Donc, gros problème, évidemment. On a essayé de passer par des petites fiches de cantine, bien innocemment, puisque, en fait, il n'y avait pas de fiches de cantine à cette époque-là. Et ça n'a pas abouti. Et bien que j'ai toujours, moi, en mémoire et dans mon cœur, la volonté de faire quelque chose, j'attendais le bon moment et les bonnes personnes. Ce qui a fini par se produire. Et vraiment, au dernier moment, donc c'était inespéré. Donc je suis retournée au CDI, les personnes avaient changé.
La joie est bien.
Oui, c'est ça.
Quel que soit le degré de notre souffrance, nous pouvons toujours en trouver. Ah, c'est ça.
Je m'appelle Khalida Hachi, donc je suis professeure documentaliste au lycée Jean de La Fontaine à Paris, dans le 16e. Première fois que j'ai entendu parler de ces lettres, c'était par le biais de Christine Lerche, donc professeure de mathématiques, qui alors partait en retraite et était venue directement nous voir, donc moi et mes deux autres collègues, pour nous demander de l'aide concernant la transmission mémoire de cette jeune fille. Et donc elle nous a remis ses lettres au même moment. Donc je les ai découvertes vraiment au moment où elle est venue demander de l'aide. Madame Lerche nous avait déposé un ensemble de lettres de Louise Pikowski. C'était une correspondance avec son enseignante de l'époque, Mademoiselle Malingré, et des livrets de récompenses scolaires. Il y avait aussi une Bible, des photos. C'était une photo de Louise agrandie et une photo de classe où on apercevait Louise, Mademoiselle Malingré et ses camarades de l'époque.
Et je dois dire que là, j'ai été tout à fait bien accueillie par toute l'équipe du CDI et en particulier par Khalida, qui a été comme moi très sensible à ces lettres, car quand on les lit, on ne peut pas ne pas être sensible, on ne peut pas ne pas être ému.
Dans un premier temps, je lis les lettres, donc je les ai lues d'une traite. Et c'est vrai que j'ai été très frappée par l'écriture, le style. Une clarté et un fluide qu'on ne pourra plus jamais lire, je suis désolée, auprès des élèves maintenant, surtout les jeunes collégiens et lycéens même. Donc j'ai été très émue de les lire. J'ai été frappée aussi par sa maturité d'esprit.
Boulogne, le 12 août. Oh mademoiselle, vous exagérez. Vous me permettez de vous le dire, puisque c'est la première chose que j'ai pensée en voyant votre second colis. Pourtant, je ne vous cache pas que je suis bien, bien heureuse. Je ne vous remercie pas. D'abord, je ne saurais pas. Et puis, vous me comprenez, j'en suis sûre. Lundi, nous avons envoyé un colis alimentaire à papa. Le poids est limité à 3 kilos, mais nous pouvons tricher jusqu'à 4 kilos. J'espère que nous pourrons continuer à correspondre ainsi. Une carte tous les 15 jours et un colis alimentaire toutes les semaines. Papa qui aime tant l'ail et qui nous en demande. Maintenant, nous pourrons lui en mettre un peu. Je lis et relis votre lettre dans le calme absolu de ma chambre. Je possède la paix, pour le moment.
Vous, loin du monde et du bruit, loin des jours d'ennui, je prierai chaque nuit.
Oui, vous avez raison, mademoiselle. Dieu seul peut vous aider, et je crois fermement bien que j'ai longtemps lutté. Tant de choses me déplaisent chez les gens croyants et pratiquants. Ma grand-mère, par exemple, qui tomberait certainement malade si elle savait que nous écrivons le samedi. Et toutes ces pratiques établies en d'autres temps et qui n'ont aucune raison d'exister maintenant. Voir des luttes entre des gens qui croient en un seul Dieu et à qui on enseigne l'amour de son prochain. Je crois que Dieu nous aide, mais je ne crois pas qu'il nous entende. Je crois qu'il nous réconforte par nous-mêmes, puisque la prière nous réconforte et que sa justice s'exerce encore par nous-mêmes, puisque lorsque nous croyons, que nous cherchons avec sincérité la voie du bien, nous sommes heureux. Tandis que les méchants ne connaissent pas la joie avec sa douceur et sa force. Mademoiselle, je vous dis ce que je n'ai jamais dit à personne, mais je vous aime et je vous admire. J'espère que je ne vous ennuie pas et que vous excuserez ma franchise. Dites-moi, je vous en prie, si j'abuse de votre amitié. Je vous envoie toute mon affection. Louise.
Ce sont des très belles lettres d'une élève qui n'était qu'en seconde, donc qui était encore très jeune, mais il y avait une grande maturité, une grande sensibilité. Ce sont vraiment des lettres très très émouvantes. Et j'invite vraiment tout le monde à aller les lire parce que elles sont magnifiquement écrites. Et c'est vrai que quand on pense au destin tragique de Louise Pikowski, il y a tellement d'humanité, de rayonnement, de bonté tranquille que c'en est d'autant plus saisissant.
Mais j'ai été aussi un peu prise d'amertume face à ce qui lui est arrivé. Bah, disons que sa fin de vie était quand même assez tragique. Son dernier mot a été quand même été très émouvant.
Nous sommes tous arrêtés.
Nous sommes tous arrêtés.
Je vous laisse les livres qui ne
donc
sont pas.
Donc je vous laisse quelques livres et des lettres que j'aimerais retrouver si je reviens. Un jour.
Et qu'est-ce que cette correspondance vous a inspiré sur le moment, cette correspondance entre Mademoiselle Malingré et Louise, vous qui êtes documentaliste, donc cette relation entre professeur et élève, qu'est-ce que vous avez ressenti personnellement ?
Bah, c'est vrai que la relation qu'elles entretenaient était assez forte, mais était aussi due au contexte de l'époque, donc en pleine guerre, avec des facteurs de restrictions alimentaires. Donc Mademoiselle Malingré aidait beaucoup Louise Pikowski et elle en témoignait dans ses lettres, hein, donc notamment au niveau des colis alimentaires, du réconfort aussi que son enseignante lui apportait. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux qu'un professeur puisse autant donner à une élève.
Paris, le 9 septembre. Merci pour votre lettre que j'attendais avec impatience, comme cet hiver, les cours d'action morale. Je l'attendais comme un réconfort dont j'avais bien besoin. Quel beau sujet vous nous avez choisi. J'espère que mes compagnes en seront contentes. Pour moi, j'y pense tous les soirs dans mon lit. Je pense que la première source de joie, c'est comme vous nous l'avez dit, la joie de vivre, de voir clair. Je pense que les Grecs avaient raison de considérer comme plus grande souffrance celle de ne plus voir la lumière du soleil. Oh oui, pouvoir respirer l'odeur de l'herbe, voir le soleil dans les champs, et à défaut, voir même les couchers de soleil à Paris. Admirer les étoiles, c'est bien la première joie.
I'm here against the bay window, trapped by the north wind and the snow. God's buried, rain fade on the ground. That's why Jordan me upside down. To those of you who sorrow blows. sacred ice and break of the IO. Beware of such an enemy. It's not destroying so stealthily. The wind's always a better place for those whom fate never embraced. The deal is real, the price is high. There's verity when the poet goes by. The wind's always a better friend to those whose fate never ascends. The deal's the thrill, the price is full. There's verity, so goes the poor.
La joie est bien en nous. Quel que soit le degré de notre souffrance, nous pouvons toujours en trouver encore un peu, en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en cinquième et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage, et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi ».
Alors j'ai retracé le parcours du travail qui a été fait en amont par mes collègues, donc Madame Lerche, Monsieur Choucroune... Donc voilà, ils avaient travaillé ensemble dans des recherches, mais qui n'avaient pas forcément abouti. Voilà, j'ai retracé aussi le parcours des documents. Alors, Mademoiselle Malingré a dû transmettre les lettres, la Bible et les autres documents à une autre enseignante de lettres classiques qui s'appelait Madame Castagnou. Et lors de la cérémonie du 50e anniversaire de l'établissement, Madame Castagnou a créé un petit livret et monté une exposition autour de la mémoire de Louis Spikowski. Et à travers le petit livret de Madame Castagnou, j'ai pu retrouver, par exemple, une élève qui a été déportée qui s'appelait Anna Janowski. Et un après-midi, je rencontre ma sœur qui me parle de sa collègue spécialiste en histoire et des deux guerres. Et donc, je décide de l'appeler et nous démarrons en fait un travail en binôme pendant un an. Donc, un travail qui a duré un an.
Alors, je m'appelle Stéphanie Trouillard et je suis donc journaliste pour le site internet de France 24. Et depuis quelques années, je me suis spécialisée dans l'histoire des deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.
Pourquoi ?
Par passion pour l'histoire. Tout d'abord, j'ai longtemps hésité entre le journalisme et être prof d'histoire. Et je travaille beaucoup sur l'histoire de ma famille. Je vais souvent aux archives et donc j'ai acquis au fur et à mesure des compétences dans ce domaine. Donc je mêle à la fois ma passion pour l'histoire et mon travail. Donc c'est une grande chance et je réalise souvent des articles sur ce thème-là.
Donc à partir de là... Eh bien, ma foi, toutes les portes se sont ouvertes, c'est allé très vite, puisque Khalida Hachi a contacté Stéphanie Trouillard, avec laquelle sa sœur, je crois, travaillait. Et alors là, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un métier, parce que tout est arrivé très vite. Donc, on a eu beaucoup d'informations, dont des choses qui aboutissaient, des choses qui n'aboutissaient pas, mais c'était vraiment tout à fait saisissant. Et chaque semaine, j'avais un petit mot dans ma boîte mail qui me disait « Voilà, on a trouvé ça. Là, ma foi, c'est un peu bloqué. » Et puis, il y a aussi eu le fait que donc Khalida avait prévu, bien avant que je lui apporte ses lettres et ses documents, elle avait prévu de partir en Israël. Et c'est là qu'il y a quand même des hasards, de beaux hasards. Donc, elle a pu remettre à la famille, puisqu'il y a une famille, une partie de famille, je crois, des cousines, de la maman. Enfin, là, il faudrait vérifier. Mais bref, il y avait de la famille de Louise qui est à la famille de Louise qui est à Jérusalem, et elle a pu leur apporter ses documents, ses lettres qu'ils ne connaissaient absolument pas. Donc, j'ai pu aussi moi écrire un petit mot donc à cette famille pour expliquer un peu la découverte et puis la motivation que j'avais d'essayer de faire en sorte que ces documents soient lus par un plus grand nombre et qu'il y ait une plaque commémorative dans le cadre du lycée.
Christine Lerche, ancienne professeure de mathématiques, résume rapidement l'enquête qu'ont menée Khalida, la documentaliste, et Stéphanie, journaliste à France 24. Mais si, comme moi, cette histoire vous émeut et vous intéresse, restez avec nous, il y a encore beaucoup d'épisodes à détailler et raconter.
Ah, c'est celle-là. Non. Ah non, c'est pas celle-là.
C'est plus...
Non, pas là. Ah, attends, je... Ah non.
On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi. C'est quelque chose comme ça.
À Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Louise Pikowski, jeune lycéenne née à Paris dans le 19e arrondissement le 7 décembre 1927, morte à Auschwitz dans l'hiver 1944 alors qu'elle a à peine 16 ans. En 2010, une professeure de mathématiques du lycée La Fontaine à Paris a retrouvé une enveloppe contenant des lettres et des documents de Louise, une correspondance notamment avec une enseignante pour laquelle elle avait une grande admiration et affection, Anne-Marie Malin. Il y avait aussi un mot laissé par Louise qui explique confier des livres et faits personnels à Mademoiselle Malingret qu'elle récupérera si elle revient un jour. « Si je reviens un jour » est devenue une œuvre journalistique issue d'une enquête signée Stéphanie Trouillard qui travaille à France 24. Constance Léon et Marie-Stéphanie Servos de l'Atelier des médias ont décidé de vous faire revivre cette enquête. Restez avec nous, la réalisation est signée Simon Decreuse.
Khalida m'a donc contactée par le biais de sa sœur qui lui a dit que je travaillais beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale et elle m'a envoyé très rapidement les lettres de Louise et j'ai été frappée comme elle par la qualité de ses écrits. C'est incroyable qu'une jeune fille qui avait 14 ans à l'époque en 1942 écrive d'une si belle façon avec une maturité incroyable, quand même un détachement sur cette période, beaucoup de pudeur et je me suis dit qu'on avait face à nous un magnifique témoignage de cette période et tout de suite, comme Khalida, je pense que je me suis attachée à Louise par ses écrits et j'ai tout de suite voulu en savoir plus sur qui elle était et sur malheureusement ce qui lui était arrivé et on s'est donc lancé dans cette enquête.
Boulogne, le 31 août. Chère mademoiselle, je m'ennuie bien après votre lettre, alors je vous écris pour compenser un peu. J'ai déjà lu quelques passages de vos livres, c'est vraiment très beau et il y a tant de sujets, tous ceux que l'on peut désirer je crois, mais je vous en reparlerai. J'ai demandé à papa pourquoi les femmes ne comptaient pas chez nous et voici ce qu'il m'a répondu. La femme, à mon avis, a un très beau rôle dans notre religion. C'est elle qui doit veiller aux pratiques religieuses dans la maison et surtout, c'est à elle qu'appartient le soin d'élever les enfants dans l'amour de Dieu et de leur prochain. Il est vrai que dans les offices, la femme est considérée comme impure. Cela remonte sans doute, ceci est une supposition de papa, au péché d'Ève. Louise. P.S. Mardi 1er septembre, hier, je suis allée chez vous espérant que vous y passeriez. Mais votre concierge m'a dit que vous n'en aviez pas l'intention. Je le regrette beaucoup, d'autant plus que maman n'ose pas confier son livre à la poste. Vous avez un beau quartier, mademoiselle. J'ai fait une agréable promenade avec papa depuis la place de l'Étoile jusque chez vous. Là, j'ai été bien déçue. Je vous embrasse, Louise.
J'ai utilisé finalement mes compétences de journaliste pour réaliser cette enquête, mais là c'est un peu différent parce que c'est une enquête dans le passé. Tout d'abord, j'ai cherché à savoir s'il y avait des membres de la famille, ça on ne le savait pas du tout à l'époque. Et on a eu beaucoup de chance parce que très rapidement, on a retrouvé des cousines germaines de Louise Pikowski grâce au site de Yad Vashem. Donc Yad Vashem, c'est le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Et sur son site, on peut avoir accès à des fiches de témoignages, donc quand des gens ont des proches de leur famille qui sont décédés au cours de la Shoah, ils peuvent laisser une fiche de témoignage avec leurs coordonnées. On peut les retrouver de cette façon. Et donc, on a retrouvé une fiche de témoignage laissée par un cousin de Louise Pikowski qui s'appelle Jacques Cohn, qui est malheureusement décédé. Mais il y avait ses coordonnées. J'ai pu contacter ses sœurs. Et donc, on a eu de la chance de pouvoir les appeler. Et on a appris qu'elles vivaient désormais à Jérusalem. Elles sont nées en France, mais elles ont fait leur alia il y a quelques années. Et donc, on a été les voir à Jérusalem pour leur montrer les lettres de leur cousine, des lettres qui avaient été écrites 70 ans auparavant. Et donc ça, c'était un peu le départ de cette enquête. Et cela nous a donné encore plus envie de poursuivre parce que c'était un moment très fort, très émouvant. Et aussi, en les rencontrant, on a eu d'autres informations sur l'histoire de la famille Pikowski parce que leur mère avait écrit un livret qui s'appelle « Nous les rescapés », un livre, une autobiographie sur l'histoire de la famille qui nous apportait déjà quelques éléments sur l'arrestation des Pikowski. Donc on a continué, on a surtout essayé de trouver d'autres témoins en fait de cette période pour, comme Louise n'est plus là pour nous raconter ce qui s'était passé, comme Mademoiselle Malingret est aussi décédée, on a essayé de trouver le plus grand nombre de personnes qui puissent nous donner des éléments, des gens qui avaient vécu cette période parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'un témoignage de gens qui ont vécu la période de l'occupation, la Seconde Guerre mondiale. Donc on a pris les éléments dont on disposait. Donc on avait cette photo de classe avec à l'arrière de la photo de classe des noms des camarades camarades de Louise. Le problème, c'est que ces noms, ce sont des noms de jeunes filles. Donc 70 ans après, beaucoup de ces jeunes filles se sont mariées, donc il fallait les retrouver sous leur identité actuelle. Donc ça a été un peu compliqué. On a cherché sur des sites de généalogie, sur l'annuaire, et finalement, on a eu vraiment beaucoup de chance. On a retrouvé la voisine de classe de Louise. Donc là, ça a été un moment très émouvant, parce que cette dame qui s'appelait Madeleine River et maintenant s'appelait Madeleine Casse, ne pensait pas qu'on allait l'appeler 70 ans après pour lui parler de sa camarade qu'elle n'avait jamais oubliée. Pour elle, c'était un moment très douloureux, le jour où Louise n'est pas réapparue. Et finalement, elle se doutait bien qu'elle était morte en déportation. Elle savait qu'elle était juive, mais elle ne savait pas ce qui lui était arrivé exactement, qu'elle était morte à Auschwitz. Donc on lui a appris tout ça. Et elle nous a donné des éléments sur la personnalité de Louise, sur qui elle était. Et elle gardait vraiment le souvenir d'une élève brillante, très mature, et qui l'avait marquée profondément. Donc on a pu dresser un petit peu la personnalité de Louis, ça nous donnait des informations importantes. On a aussi retrouvé une autre cousine éloignée de Louise, toujours grâce au site de Yad Vashem. Donc ça, c'est une cousine au second degré. Et elle, ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait rencontré Louise en août 43. Donc la famille a été arrêtée en janvier 44. Et donc elle se souvenait de cette rencontre familiale au cours de l'été 43. Donc c'était aussi incroyable. Elle a pu nous raconter cet après-midi en famille. Et surtout nous apporter un autre élément d'archive, puisqu'il y avait une photo qui avait été prise lors de cette rencontre familiale. Donc on a pu voir à avoir un autre document sur Louise, et aussi on a pu mettre un visage sur sa mère, parce qu'on n'avait pas de photo de sa mère, qui s'appelait Barbe Brunette Pikowski. Et donc ça a été aussi un moment très fort de recevoir encore une nouvelle archive, une nouvelle pièce du Pulse de notre enquête.
Cette photo a été prise chez nous à Joinville-le-Pont. Vous voyez, j'ai un beau cerisier derrière. Et donc la famille est venue nous voir en août 43. Bah, c'était une fille très gracieuse. Et si je me souviens bien, elle avait de beaux yeux bleus. Et, enfin, je vous dis, très souriante. Et c'était des gens très calmes, très conciliants. Vraiment. Surtout, enfin, le père Abraham, c'était un homme discret. Et vraiment, je regrette qu'on n'ait pas poussé plus loin notre camaraderie. Oui, faut dire qu'elle avait du sang-froid quand même. Hein. Elle avait du sang-froid parce que moi, je crois que je serais resté pétrifié à la maison, en train de chialer, et c'est tout ce que j'aurais fait. Ou alors, on aurait décidé de s'en aller, je sais pas. Moi, je me demande.
Paris, le 17 septembre. Chère mademoiselle, mon frère vient de m'apporter votre lettre, car je suis encore chez ma tante. J'espère rentrer demain à la maison. J'y ai passé déjà nos deux jours de fête de samedi et dimanche dernier. J'étais bien, bien heureuse, car ici je m'ennuie. Je crois que le terme « ennuyé » n'est pas juste, car je m'occupe tout le temps, mais je n'en trouve pas d'autre. Joie de la vie de famille, comme elles sont nombreuses et bien réelles, je les ressens d'autant plus maintenant. Se comprendre, savoir ce qui fait plaisir à l'autre, s'aimer, quelle joie. Et puis pouvoir parler librement, ne pas recourir aux mensonges obligatoires quand on est chez un étranger. Jouir du bonheur de ceux qui vous entourent. Je suis pressée d'être au mois de novembre pour vous entendre parler de l'amitié. Faut-il que l'amitié soit réciproque? Aime-t-on quelqu'un qui ne vous aime pas? Voilà des questions qui m'embarrassent. En raisonnant, je me dis, on aime quelqu'un pour lui, pour ses qualités, et non parce qu'il vous aime. Et la réalité? Je ne crois pas qu'on s'attache profondément à quelqu'un qui n'a pour vous aucun sentiment de sympathie. Voudriez-vous me donner votre avis? Je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis heureuse que vous ayez pensé à m'envoyer le plan d'action morale. Il me semble qu'en y réfléchissant si longtemps à l'avance, je comprendrai mieux. Je vous embrasse bien affectueusement. Louise.
Pour savoir ce qu'elle avait pu vivre quand elle a été internée à Drancy, puis le convoi à Auschwitz, on a retrouvé aussi, ça a été un moment très fort, une femme qui a été déportée dans le même convoi. Donc c'est le convoi numéro 67 du 3 février 1944. Donc cette femme s'appelle Léa Schwartzmann et c'est l'une des rares rescapées de ce convoi. Elle a été déportée avec ses frères et sœurs et ses parents. Et elle fait partie de la famille la plus nombreuse à avoir été déportée de France. Ils sont partis à 13, donc les deux parents et les 11 enfants. Et seulement elle et sa sœur ont ont survécu à cette déportation. Donc c'est vraiment un témoignage très fort qui nous a beaucoup marqué. Donc nous l'avons rencontré pour essayer aussi de savoir ce qu'a pu vivre Louise lors de sa déportation. Donc cette femme ne se souvenait pas de Louise, puisqu'ils étaient plus de 1200 à avoir été déportés dans ce convoi-là. Mais elle nous a raconté ce qu'elle avait vécu. Elle avait à peu près le même âge que Louise, donc ça nous donnait encore une fois d'autres informations sur le parcours de Louise.
Moi, je voulais remercier vraiment Stéphanie et Khalida pour l'investissement qu'elles ont mis, car ça allait bien au-delà de leur travail. Je sais qu'elles y ont passé aussi des samedis, des dimanches, de recherche, de démarche. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, elles ont rencontré énormément de personnes qui pouvaient témoigner, dont une personne qui avait été déportée dans le même convoi que Louise, qui a pu témoigner. C'était, je me rappelle encore quand Khalida m'en a parlé, elle était extrêmement, extrêmement émue, car il ne reste évidemment là maintenant de moins en moins de personnes qui peuvent témoigner de leur vécu, et c'est vraiment important de conserver toute cette mémoire. Donc voilà, un grand merci à Stéphanie, à Khalida, et un espoir que ces lettres continuent encore d'émouvoir beaucoup de personnes et qu'elles puissent, disons par ces temps qui sont quand même un peu obscurs, on voit des choses ressurgir, que ce soit une lumière, un petit peu, pour éclairer ces temps obscurs. Voilà.
I was cautioned to surrender, this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant.
Atelier@rfi.fr.
Donc on a quand même réussi à bien comprendre un petit peu ce qui s'était passé pour Louise. On savait dans quel milieu elle vivait. Donc son père était chauffeur de taxi, d'origine ukrainienne. Sa mère était née à Paris, française. On savait qu'ils habitaient à Boulogne-Billancourt. Donc on a été voir leur immeuble, hein, qui est toujours le même. Voilà, on a pris les conditions de leur arrestation le 22 janvier 1944. On a été voir monsieur Serge Klarsfeld, qui est connu, grand spécialiste de l'histoire de la Shoah, qui nous a donné des éléments de contexte. Et donc on a réussi quand même à mettre assez facilement, au bout de 6 mois, à reconstituer l'histoire familiale. Mais ce que Louise nous a conduit finalement aussi, c'est sur l'histoire des autres jeunes filles déportées du lycée Jean de la Fontaine. On s'est rendu compte, enfin Kalida s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plaque dans le lycée. Contrairement à beaucoup de lycées, la grande majorité des lycées parisiens, il n'y avait pas de plaque pour, avec tous les noms des déportés. Et donc l'autre travail, c'est vraiment le deuxième volet de l'enquête, c'était de retrouver les autres noms des jeunes filles qui ont été déportées. Donc on savait qu'il y avait une autre des sœurs de Louise qui s'appelle Lucie, qui était aussi au lycée. Et on a retrouvé donc le nom d'Anna Janowski dans la plaquette qui avait été faite en 88. On a retrouvé aussi sur un autre document d'archives qui a été établi par le lycée à la Libération sur, voilà, malheureusement, ils disaient les pertes du lycée. On a retrouvé le nom de Hélène Poulic. Donc on avait déjà quatre noms. Et on a essayé de rassembler des archives du lycée, mais c'était compliqué parce que beaucoup d'archives avaient disparu pendant la guerre. On n'a pas retrouvé tous les registres de cette période, mais on a quand même retrouvé des extraits d'actes de naissance. On avait les livrets de prix, et donc c'est à ce moment-là qu'on face à la masse d'archives qu'on a décidé de faire participer les élèves à ces recherches pour qu'ils nous aident à établir le nom de tous les déportés.
Je m'appelle Romane Ribeiro, je suis au lycée Jean de la Fontaine en première ES.
Et moi, c'est Colombe Marien et je suis en classe avec Romane.
Donc premièrement, on était en classe d'histoire et Khalida Hachi, donc, qui est notre documentaliste, est venue nous présenter un peu les carnets de récompenses de l'époque et nous a raconté l'histoire donc, d'une prénommée Louise qui s'est faite déporter pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est arrivée avec beaucoup de documents, des photocopies de lettres, donc des lettres que Louise avait échangées avec sa professeure, donc Madame Malingré, sa professeure de latin. Et il y avait aussi beaucoup de relevés. Donc en fait, c'était des petits carnets avec beaucoup de noms pour chacune des disciplines, donc des élèves qui étaient les meilleurs élèves de la classe. Donc parmi ces noms-là, c'était nos seules sources. On devait retrouver les élèves déportés du lycée.
Et on devait chacun de notre côté, par groupe, faire des recherches pour savoir qui parmi ces élèves qui étaient sur les listes avait été juive et avait été déporté pendant... les déportations.
Alors nous avions deux livrets de récompense scolaire qui nous a été transmis par Christine Lerch, que j'ai complété avec des livrets qui étaient conservés aux archives départementales de Paris. Donc avec tous ces livrets plus les extraits qu'on a retrouvés, enfin les registres d'élèves, d'enregistrement d'élèves au lycée.
Qui ont été retrouvés dans la cave ou
au deuxième sous-sol de l'établissement.
D'accord.
Nous avons fait participer deux classes, donc la première ES1 et la première ES3. Donc c'est des classes très, très nombreuses, ils sont 39 et 35. Donc en partenariat avec des collègues d'histoire, on a fait travailler ces deux classes toutes les semaines. Donc toutes les semaines, ils recoupaient les informations avec le site du Mémorial de la Shoah, de Yad Vashem et d'autres sites, par exemple les pages blanches, hein, tout simplement, les archives départementales. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe d'élèves a retrouvé une ancienne élève déportée qui s'appelait Berthe Baumann.
On nous a dit de rechercher par n'importe quel moyen. Et nous, en tout cas, ce qu'on a fait dans notre groupe, c'est qu'on a d'abord trié les noms de famille par ordre alphabétique dans des listes faites avec Excel. Et ensuite, on a tapé tous les noms par ordre alphabétique sur le site de Yad Vashem. Et c'est là que on a trouvé une juive qui avait été déportée. C'était Berthe Baumann. Et après, on a plus tard, Khalida et Stéphanie Trouillard, elles ont retrouvé des actes de naissance de la lettre A à K. Et donc il y a eu la confirmation que Berthe Baumann était ici, qu'elle avait été déportée à La Fontaine.
D'accord.
Et qu'elle avait été déportée. Toutes les dates correspondaient avec ce qu'il y avait sur le site de Yad Vashem. Et donc on était sûr qu'elle avait été déportée.
Dès qu'on a trouvé Berthe, c'est vrai qu'on a eu, on a eu une montée d'émotion et on est resté figé devant l'ordinateur, devant. Il y avait une carte en fait qui montrait son parcours, où est-ce qu'elle était née, où est-ce qu'elle avait été déportée, son camp de transit, etc. Et en fait, c'est vrai que c'était triste parce que le point final, c'était Auschwitz-Birkenau. Et c'était assez émouvant. C'était dur.
Le père, la mère et les quatre enfants sont conduits à Drancy, où ils sont tous fichés. Quelques jours plus tard, le 3 février 1944, ils sont sélectionnés sur la liste du convoi numéro 67. En bus, avec plus de 1200 autres personnes, ils gagnent la gare de Bobigny, lieu de départ pour Auschwitz, en Pologne.
« se remettre dans le contexte des élèves à l'époque, c'est une histoire acquise pour eux.
En rencontrant toutes les personnes durant l'enquête, ça a été à chaque fois des moments très émouvants. En rencontrant la camarade de classe de Louise, en recueillant le témoignage d'une ancienne déportée, c'était des moments très forts. Mais je crois que le moment qui m'a peut-être le plus ému, c'est quand on a discuté avec le groupe d'élèves qui a retrouvé le nom de Berthe Baumann, une des autres déportées du lycée Jean de la Fontaine. Donc au départ, elles nous ont expliqué qu'elles voulaient vraiment chercher un nom, parce que c'est ce qu'on leur avait demandé en classe, c'était le but. Et quand elles l'ont découvert, en fait, elles ont réalisé que Berthe Baumann avait été déportée, qu'elle était décédée. Et donc elles sont passées de l'état de très contente à triste finalement, et elles ont vraiment pris conscience du sens du travail qu'on leur avait demandé, parce qu'elles ont réalisé que cette jeune fille avait à peu près leur âge, qu'elle était dans leur lycée et qu'elle malheureusement elle avait été tuée durant la guerre. Donc là je me suis sentie utile, c'était au-delà de mon métier de journaliste où souvent je suis devant mon bureau, devant mon ordinateur. Là je me suis sentie vraiment utile parce que cette transmission était passée, ça donnait vraiment du sens à mon travail, et je sais que maintenant ce groupe d'élèves va garder cette histoire en tête toute sa vie, et en plus s'est senti utile dans ce travail des mémoires. Donc c'était vraiment très fort de voir que à ce moment-là elles avaient pris conscience de cette histoire.
Vous pensez à elle parfois, à Berthe Baumann, Romane?
C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'éléments qui nous ont fait nous rappeler d'elle. Donc déjà, il y aura la plaque qui sera posée en octobre. On a rencontré Serge Klarsfeld, qui est venu au lycée faire une conférence. Moi, je me suis rendue au mémorial de la Shoah, donc il y avait une conférence aussi. On a rencontré des journalistes. Et c'est vrai que raconter à chaque fois l'histoire de Berthe, ça fait qu'elle fait partie de nous aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on a partagé et c'est quelque chose qu'on gardera parce que ça nous a marqués.
C'est vrai que grâce à ce projet, on a permis de ne pas complètement oublier les anciennes élèves, ni les anciennes juives en général, qui ont été déportées pendant la guerre. Et surtout que c'est un passage assez dur de notre histoire. Et c'est bien de ne pas l'oublier, parce que ça a été important quand même.
En fait, on a entretenu le souvenir de ces filles qui ont disparu. Donc je pense que c'est un travail d'historien, et en même temps un travail du présent qu'on doit tous... faire.
Alors sur cette plaque, il y aura 6 noms, donc 6 élèves qui ont été déportés. Et une autre plaque sera mise pour les enseignantes résistantes, puisqu'on a eu aussi une professeure de lettres classiques qui a été déportée pour avoir hébergé un parachutiste américain.
Donc déjà, par rapport effectivement à la plaque commémorative pour les élèves, c'était important. Et puis bien au-delà, il y a toute la résonance qu'a eu le webdocu de Stéphanie, qui vraiment, je crois, a eu un écho. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui l'ont vu, et des professeurs, par exemple, d'histoire, qui vont travailler sur les lettres. Et ça, c'est important. Et puis il y a eu, j'oubliais aussi de le dire, et ça, c'était essentiel pour la transmission aux jeunes générations. Donc, Kalida et d'autres professeurs ont organisé, à partir de ces fameux registres, des recherches avec des classes pour retrouver les autres noms des élèves déportés. Donc bien au-delà, c'est important effectivement que ces lettres puissent servir de base, de documents pour d'autres jeunes, pour d'autres professeurs. Et le fait effectivement de les avoir déposés, les documents, au mémorial de la Shoah, font qu'ils sont consultés facilement, et que le mémorial lui-même organise des expositions, des événements qui font que les documents remis continuent à vivre. Voilà.
Ce que je retiens de cette enquête sur les lettres de Louise Pikowski, moi ce qui me touche, c'est en relisant ces lettres, par exemple, il y a un moment très fort où elle dit qu'elle se souvient d'une composition en latin sur laquelle elle avait travaillé, où un homme raconte que ses filles ont été emmenées en esclavage, mais qui n'ont pas tué toute la richesse qui était en lui, parce que sa richesse est toujours intérieure, il a toujours cette lumière intérieure en lui, malgré le fait qu'on lui a fait subir les pires des choses. Et je me suis dit que ça reflétait un petit peu l'histoire de Louise Pikowski. Elle a été tuée car juive durant la Seconde Guerre mondiale. On l'a envoyée en déportation et on l'a assassinée. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à la tuer entièrement, parce que 70 ans après, elle parle là au plus grand nombre. Là, elle touche énormément de gens, en plus grâce à Internet. Et finalement, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Et que grâce à ces lettres, grâce à la découverte de ces lettres, et ben Louise est toujours quelque part un peu vivante. Et elle parle au plus grand nombre, donc ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire.
Si je reviens un jour est un web documentaire signé Stéphanie Trouillard que vous pouvez retrouver sur le site de France 24. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions de l'atelier des médias et particulièrement aux questions de Marie-Stéphanie Servos et Constance Léon. Bravo d'ailleurs à Marie-Stéphanie et Constance pour ce travail. L'atelier est également signé Simon Decreuse, Ziad Malouf et Camille Deloche. Pour nous réentendre, pensez podcast. Salut à toutes et à tous.
Tendre espoir fleurit.